Membre fondateur et commissaire fédéral de la Fédération des Congolais de l'étranger et responsable des statistiques administratives au sein du Bureau d'études à l'Université libre de Belgique, Tambou Kita Pambou est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Tambou Kita Pambou, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
Vous n'avez pas de prénom à votre nom ?
Non, justement, nous sommes de cette génération où il y a eu
l'authenticité,
et donc j'ai perdu un prénom, mais j'avais effectivement un prénom dans le temps qui est Pierre Damien, mais il y a tellement longtemps que personne ne l'a utilisé, que moi-même je ne me retourne plus quand on m'appelle Pierre Damien.
Et il a fini par disparaître.
Absolument, d'autant plus qu'à l'école déjà, je ne sais pas pourquoi, mais déjà, même quand on avait le prénom, les amis m'appelaient déjà Pambou.
Vous avez une expérience de près de 25 ans comme responsable d'études statistiques au sein de l'Observatoire du Pôle Universitaire Européen Bruxelles-Wallonie. Vous êtes aussi membre fondateur et commissaire fédéral de la Fédération des Congolais de l'étranger. Vous le savez aussi, il s'est tenu à Kinshasa, le premier forum des Congolais de l'étranger. Nous aborderons toutes ces questions au cours de notre entretien. Pambou Kita Pambou, je crains de vous appeler Pierre Damien.
Je vous appelle, mais c'est vrai que ça sera intéressant que je me réhabitue un peu.
Vous êtes belge d'origine congolaise. Le 14 mars 1953, vous naissez à Lukula, dans la province du Bas-Congo. Que signifie votre nom ?
Dans ma langue, c'est Ankiyom. Pambou, c'est une contraction d'un mot qui s'appelle Divambou. Quand vous avez un chemin et que vous avez une petite bifurcation, cette bifurcation-là s'appelle Divambou ou bien Pambou, c'est de la même manière.
Un petit sentier, quoi.
Exactement, un petit sentier qui sort d'un grand sentier. C'est que, effectivement, c'est tout petit, hein, ça c'est sûr.
Oui,
absolument. C'est un nom que portait déjà mon père. C'est comme ça, évidemment, que dans cette partie-là, vous allez constater que j'ai deux fois le même nom. Qui dirait ici pour nous, c'est Pambou. Kita Pambou. Donc Pambou Kita Pambou, alors que chez les Bayombes, en tout cas, nous sommes matriarcales. Mais il y a un des garçons qui, parfois, est plus orienté vers la partie paternelle. C'était en fait les compensations qui existaient au moment où on faisait des dots. Une manière de rembourser les dots, c'est de mettre à disposition un garçon mâle qui est normalement orienté à épouser un tatamoisi, comme on le dit en lingala, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'effectivement, moi, par rapport à mes autres frères et sœurs, je ne porte que des noms venant du côté de mon père.
Vous êtes marié et père de trois enfants. Parlez-nous de votre enfance.
J'ai eu beaucoup de chance, et c'est aujourd'hui quand j'y pense, il y a déjà tellement longtemps, et que je reviens au Congo, toutes ces choses commencent à revenir évidemment dans ma tête. Je trouve ça absolument formidable. C'était d'abord évidemment une enfance en famille, mais très rapidement, parce que de mon temps du moins, on pensait que pour faire de bonnes études, il fallait aller dans des internats. Ce qui fait que vous vous retrouvez très rapidement avec des enfants de 9-10 ans qui quittent la cellule familiale pour déjà se mettre en internat. Mais quoi qu'on en dise, aujourd'hui, ça paraîtrait absolument horrible de pouvoir retirer un enfant de sa famille. Mais à mon temps, et je pense aujourd'hui que c'était en même temps aussi une chance, mais ça m'a empêché peut-être d'avoir toute l'affection que j'aurais pu attendre, mais ça m'a permis aussi de rencontrer très tôt autre chose que la cellule familiale.
Alors, l'école primaire, il y a l'école primaire de Tchela, toujours dans le Bas-Congo, où vous décrocherez d'ailleurs votre certificat primaire en 59. Qu'en est-il de vos études secondaires ?
Les études secondaires de mon temps, il y avait quelques grandes écoles au sein du Mayomb. Et effectivement, moi, à ce moment-là, j'ai quitté Tchela pour revenir à Lukula. C'est un collège qu'on appelait en ce moment-là le collège Saint-Charles Luanga, chez des prêtres scotistes. Et c'est là où je vais faire effectivement mes latins philosophie. Donc, je n'étais pas du tout prédestiné à faire des statistiques plus tard. On pensait que ça allait être plutôt les classiques, ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est le parcours de la vie.
En 1983, vous devenez licencié en statistiques de l'Université catholique de Louvain. En 1996, vous publiez Lutter contre l'échec, les guidances en première candidature à l'Université libre de Bruxelles. Comment évaluez-vous la prestation des étudiants congolais à l'ULB ?
Oui, déjà simplement dans l'ensemble du système belge. Au départ, il y a quelques années, quand on partait du Congo vers la Belgique, la plupart du temps, on allait d'abord vers l'Université catholique de Louvain. C'est comme ça que moi-même, je me suis retrouvé plutôt à l'Université catholique de Louvain, alors que vous constatez que toute ma partie professionnelle s'est passée à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, ce qui est, quand on connaît le milieu belge, est tout à fait pratiquement antinomique. Ce n'est exactement pas la même chose pour les deux groupes. Mais cela étant, les étudiants qui partaient d'ici et qui arrivaient en Europe, en tout cas en Belgique, étaient suffisamment bien formés, ça c'est certain. Maintenant, dans la partie où nous sommes, nous avons des différences très très importantes entre groupes. Et c'est vrai que, et c'est ça qui nous fait plaisir. Parce que moi, mon travail au quotidien, entre autres, c'est étudier l'échec scolaire, étudier l'échec à l'université et pouvoir proposer aux autorités des pistes de solutions. Mais les étudiants congolais, ce n'est qu'un petit groupe. Ce qui fait que on ne s'apesantit pas sur ce petit groupe-là, parce que cela, entre guillemets, n'a aucun intérêt sociétal pour la Belgique, mais cela a un intérêt particulier pour moi. Ce qui fait que c'est un groupe que j'étudie personnellement aussi. Et ce qui me fait absolument plaisir dans cela, c'est que, globalement, nos étudiants ont un problème quand ils arrivent d'ici, c'est sûr. Mais ils ont besoin d'un an pour se mettre presque à niveau. Donc c'est presque un point de passage normal de pouvoir rater une première fois. Quand je dis normal, ça fait un peu mal, mais c'est le parcours, malheureusement, qui est le nôtre aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous parvenons à recevoir des étudiants qui arrivent du Congo, qui sortent directement de nos écoles secondaires ici, 1, 2, 3, dans telle et telle faculté, qui ont un comportement absolument au-dessus de la moyenne. Cela me fait plaisir à moi, mais cela en réalité fait plaisir énormément à leurs professeurs, parce que tous nous avons l'impression que l'enseignement au Congo a baissé. C'est vrai qu'il a beaucoup baissé globalement, mais il reste encore des capacités étonnantes et que nous exploitons au mieux. C'est ce qui arrive d'ailleurs quand nous recevons malgré tout des étudiants qui ont fait leur université ici. Quand on regarde sur papier et quand on les regarde dans les 2 ou 3 premiers mois de leur arrivée en Belgique, on constate toutes les carences qu'ils ont. Et c'est vraiment dramatique. Mais en même temps, quand nous arrivons au 3e et au 4e mois, ils ont une capacité d'adaptation qui est très très rapide. Et en ce moment-là, ils se projettent vers le futur de telle manière que nos professeurs, nous qui sommes déjà là, nous sommes particulièrement fiers des étudiants que nous recevons encore ici. Mais quand on les reprend les 2 premiers mois, c'est sûr qu'on est complètement perdu. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ?
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand à Moi, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Depuis 2008, Pierre Damien Pambou, Kita Pambou, vous êtes responsable des statistiques administratives au sein du bureau d'études de l'Université libre de Belgique. Ça fait exactement 23 ans que vous êtes dans ce domaine. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Ce sont des statistiques universitaires, pour l'ULB naturellement, mais aussi, en tout cas, la possession des statistiques est quelque chose de très réglementé dans les pays européens, parce que ça fait référence à la vie privée. Effectivement, nous qui sommes du métier, nous savons qu'en réalité, quand on a 2 ou 3 bases de données qu'on passe à les mettre ensemble, on a une connaissance absolument étonnante de la vie d'une personne. Il suffit de voir même quand tous les paramètres qu'on pourrait relier pour arriver à quelque chose. Et donc là, j'ai eu beaucoup de chance, moi, dès le départ. Lorsque l'Université libre de Bruxelles m'a engagé, j'ai eu la chance déjà simplement de savoir qu'il y a très peu, même dans les pays européens, de personnes qui ont fait des statistiques. Et donc même l'Université libre a été obligée d'engager quelqu'un qui a fait plutôt ces statistiques à l'Université catholique de Louvain. Mais entre-temps, quand on vous met en ce moment-là au cœur d'un système, parce que réellement je pense que les statistiques forment le cœur d'un système lorsqu'on a un système de gestion à faire. Et donc pour pouvoir le manipuler, je dois évidemment avoir accès à toutes les données possibles dans ce domaine-là. Et donc, mon travail a toujours consisté au départ à formaliser les données dont on a besoin et au besoin, évidemment, faire les enquêtes nécessaires pour y arriver, mais entre-temps, évidemment, en retirer le maximum d'informations et d'intérêts pour ceux qui sont censés prendre des décisions.
Nous le disions en début d'émission, il vient de se tenir à Kinshasa du 30 juillet au 5 août 2008, le premier forum des Congolais de l'étranger, tous unis pour la reconstruction de la République démocratique du Congo, c'est le thème de ces assises auxquelles ont pris part 150 Congolais de la diaspora. Pierre Damien Pambou, Kita Pambou, vous êtes membre fondateur et commissaire fédéral des Congolais de l'étranger. Quels sont les difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes vivant à l'étranger ?
Les difficultés sont doubles. D'abord sur leur propre territoire d'accueil, naturellement, et aussi en même temps, malheureusement, dans leur rapport avec le pays d'origine, c'est sûr. Sur le terrain, dès le départ, ce sont surtout des questions d'intégration. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus facile. C'est-à-dire nos propres enfants suivent un parcours tout à fait différent de celui que nous avons pu suivre. Parce que nous, quand nous sommes partis en Europe, nous n'y sommes pas partis pour nous installer. Ce qui fait que nous étions tournés vers ici en espérant que demain je vais rentrer. Mais le demain est devenu des années, l'année suivante et ainsi de suite. La plupart des gens de mon âge ont ce parcours-là et nous n'avons jamais pu nous concentrer sur notre propre intégration. Cela étant, c'est sûr que l'Europe a beaucoup évolué. Nous savons aujourd'hui, évidemment, que le système est devenu, entre guillemets, non, je ne vais pas dire utiliser le mot racisme, mais il est un peu plus intégrant aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Ce qui fait que, il y a quelques années, déjà simplement s'intégrer était quelque chose de beaucoup plus difficile. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec un certain nombre de diplômés relativement âgés, mais qui n'ont pas pu réellement donner la pleine mesure de leur capacité sur le terrain. Mais qui, malheureusement, n'ont pas pu non plus donner leur pleine mesure dans le pays, d'origine, qui la plupart du temps avaient participé au financement de leurs études. Parce que nous devons bien nous rendre compte que pour toutes les personnes qui sont parties avant les années 80, la plupart de ces personnes-là étaient boursières, évidemment. Et c'est ce que nous essayons aujourd'hui de rééquilibrer les choses. À la fois, nous sommes là-bas, mais peut-être qu'il faut trouver les mécanismes pour que nous puissions rembourser, entre guillemets, une dette que nous avons vis-à-vis de ce pays.
Par rapport au Forum des Congolais de l'étranger, il s'est clôturé, bien sûr, mais certaines personnalités appartenant à la diaspora congolaise ont émis des doutes en ce qui concerne la qualité de certains délégués qui ont pris part à ces assises. Je vous invite à suivre ces témoignages.
Au niveau de Montréal, on a eu vent qu'il y a eu des protestations par rapport aux délégués qui représentent près la communauté congolaise de Montréal. Le président de la communauté congolaise de Montréal avait reçu une invitation officielle donc pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à ces assises-là et en même temps désigner les deux autres délégués de la ville de Montréal. Mais il s'est fait qu'en lieu et place des personnes qui ont été désignées, donc des personnes non reconnues officiellement représentent donc Montréal à ces assises.
Pierre-Damien Pambou, Kita Pambou, comment le choix des délégués à ce forum a-t-il été effectué?
Il faut dire évidemment que je n'ai pas participé à cette partie préparatoire qui, à mon avis, est la partie la plus délicate aussi. Parce que effectivement, quand on doit choisir trois personnes dans Montréal, puisque c'est ce que nous dit notre compatriote, il faut parvenir effectivement à les choisir. Et ce qu'il y a, c'est que, imaginez-vous simplement déjà, si on choisissait trois personnes à Montréal, il faudra peut-être en prendre à Québec, il faut en prendre à Ottawa, il faut en prendre ici et là. Ça veut dire déjà que nous avons peut-être une centaine de ressortissants du Canada qui viendraient. Or, globalement, nous sommes déjà devant des assises pour lesquelles il y avait à peu près, à mon avis, plus ou moins 150 personnes venant de la diaspora. Le gros problème, et le doute est légitime, ça c'est certain, parce qu'effectivement, on ne peut pas au départ savoir mais pourquoi telle personne est partie et pourquoi pas telle autre personne.
Et vous, par exemple, comment avez-vous été désigné?
Absolument. C'est clair que quand on voit mon parcours, quand on est sur la place de Bruxelles, pour ce qui concerne l'apport des migrants vers le pays d'origine, je suis animateur général de la coordination générale des migrants pour le développement. Donc, dès le départ, je suis au centre d'un dispositif. Et nous avons déjà passé beaucoup de temps à négocier simplement ce genre de choses avec notre pays d'accueil, la Belgique, mais aussi, évidemment, avec le pays ici. Déjà de le départ, si moi je dois connaître une personnalité responsable congolaise, en étant congolais de l'étranger, si je ne dois connaître qu'une seule personne, c'est évidemment la vice-ministre des Congolais des étrangers. Donc pour moi, c'est un devoir que de connaître cette personne-là. Donc la première chose que je fais, quand elle est arrivée à Bruxelles, et quand moi j'arrive ici, dans les deux jours de mon arrivée, je vais demander audience pour voir Madame la vice-ministre. Ce qui fait que, contrairement peut-être à d'autres, moi je connaissais Madame la vice-ministre. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que nous venons de Belgique. En Belgique, cela s'est fait très différemment. Nous nous sommes dit, dès le départ, normalement, qu'il n'était pas indiqué que le pays qui est dans des difficultés importantes, difficultés financières s'entend ici, que le pays puisse mettre tellement d'argent dans ses assises. Donc nous avions pensé qu'on allait pouvoir tous y mettre un peu du nôtre. Nous avions pensé qu'on devait le faire d'une manière paritaire. Le gouvernement supportant le tiers du financement des assises, la diaspora en tant que telle supportant le tiers des assises et les partenaires prenant le troisième tiers. Ça, c'était notre manière de voir et financer ces assises. Mais revenons sur la Belgique, nous avions déjà, quand nous avons appris que la date des assises était autour du 30 juillet, nous avions demandé à un certain nombre de personnes qui devaient venir en vacances au Congo. Nous leur avons dit, écoutez, si vous pouvez aller en vacances, allez-y à telle période, ça permettra déjà de diminuer le coût de billets d'avion.
Donc, je pense que c'est le plus gros montant.
Et puis, pour un certain nombre de personnes comme moi, qui nous sommes arrivés ici, comme nous venions parler de l'apport des migrants vis-à-vis des pays d'origine, et que nous sommes censés, entre guillemets, avoir une certaine expertise en la matière, nous avons été financés à 4 comme experts pour venir à ces assises. Et donc, pour nous, c'est la coopération belge qui a pris en charge la participation financière à ces assises.
Alors, parmi vos publications, on note encore « Diaspora et reconstruction de la République démocratique du Congo » paru dans le journal Le Monde en 1999. Quels sont les problèmes que vous, Congolais de l'étranger, connaissez par rapport à votre pays d'origine en matière d'investissement ?
C'est quelque chose d'absolument fondamental, cela. Parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre un peu à niveau. On a l'impression, effectivement, mais à mon avis une impression relativement fausse, même si en partie elle est aussi fondée, c'est que la diaspora a une grande capacité financière, mais pour moi, globalement. En tant qu'individu, je ne suis pas convaincu que notre capacité financière soit très importante, à part les exceptions qui font que effectivement tel ou tel opérateur économique peut provenir de la diaspora. Il suffit de voir l'investissement qu'a pu faire notre collègue Moutoubou pour ne prendre que celui-là. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été médiatisés à ce niveau-là. Ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'il a pu faire, naturellement. Mais c'est pour simplement dire que nous qui le savons, il y a beaucoup d'autres investissements qui ont été faits, mais qui ont été faits en orientation économique directe. Mais maintenant, ce qui serait important pour nous, c'est de parvenir à trouver un système mobilisateur qui fait que les capacités financières plus ou moins réduites qui existent, mais qui sont réelles, qu'on puisse parvenir à trouver un mécanisme pour les regrouper et en ce moment-là les renforcer. C'est comme ça d'ailleurs que dans ces assises, ce n'est peut-être pas l'objet de cette émission, mais de ces assises, nous avons pris option tous pour réunir très rapidement un fonds que nous avons appelé Fonds des Congrès des étrangers pour la reconstruction. Et un fonds que nous positionnons au niveau du million de dollars. En réalité, par rapport aux besoins du pays, le million de dollars semble tout à fait dérisoire. Mais c'est en réalité une manière d'orienter la dynamique. Parce que c'est autour de ce genre de voies qui sont ouvertes qu'effectivement la mobilisation plus générale des fonds des Congrès des étrangers pourrait arriver. Le problème qui arrive là, c'est que maintenant, heureusement, avec la coordination qu'on vient de mettre en place, il y a l'interface et il y a un interlocuteur qui peut déblayer le terrain officiellement, de telle manière qu'effectivement l'investisseur privé, congolais de l'étranger, puisse réussir son investissement de la manière la plus facile possible. Et c'est ça le gros travail que nous demandons à l'ANAPI, l'Agence Nationale de Promotion des Investissements, pour parvenir à faciliter ce genre de choses.
Radio Café, grand témoin.
Pierre Damien Pambou Kitapambou, vous êtes responsable des statistiques administratives au sein du Bureau d'études de l'Université libre de Belgique et membre fondateur et commissaire fédéral de la Fédération des Congolais de l'étranger. Les premières assises des Congolais de l'étranger et le Forum de la diaspora santé se sont clôturées le mardi 5 août dernier, nous le disions déjà. Les Congolais vivant à l'étranger ont demandé au gouvernement de la RDC, entre autres, de régler les problèmes de leur droit de vote, de leur représentation politique au Parlement et de la reconnaissance de la double nationalité. Retenez que les deux derniers jours avaient été consacrés aux réflexions sur les mécanismes de collaboration et de mobilisation des ressources pour apporter de l'aide au secteur de la santé. Les médecins de l'étranger ont dit concrètement comment ils pensent apporter leur pierre à la reconstruction nationale. Dr David Kalombo, directeur national au programme de lutte contre le VIH-Sida en Afrique du Sud, était au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Nous avons demandé au gouvernement de nous donner un chantier pilote, un hôpital où nous pourrons trouver des moyens et des partenaires pour pouvoir réfectionner et mettre l'équipement de pointe afin de permettre que les Congolais, au lieu qu'ils se tracassent à aller se faire soigner en Afrique du Sud avec tout ce que vous connaissez comme coûts, ils peuvent être soignés sur place. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnels de santé en Afrique du Sud. L'expertise est là et les Congolais de l'étranger sont prêts à revenir donner cette expertise ici, donc venir traiter les malades sur place. Si le gouvernement va permettre que cela se fasse, nous pensons que c'est dans ce sens-là que beaucoup d'autres opportunités vont être ouvertes dans le sens de transfert des équipements qu'on peut trouver ailleurs.
Mon venant de suivre là Pierre-Damien Pambou, c'est que les médecins congolais de l'étranger pensent accomplir dans le domaine de la santé. Il y a d'autres compatriotes, par exemple Jean-Pierre Chimanga-Mameta, cadre congolais vivant en Brazzaville, qui demande, lui, au comité de suivi qui a été mis en place de ne pas baisser la garde, et il demande qu'il soit plus regardant en ce qui concerne l'obtention des visas, des passeports. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces recommandations?
Oui, c'était un moment réellement fort et il était temps qu'on puisse le faire, même si nous sommes au milieu de la législature. Mais c'est vrai qu'en réalité, nous ne sommes pas en train d'investir simplement pour cette législature-ci, mais nous sommes en train d'investir pour le Congo et lui, il est naturellement éternel et c'est une très bonne chose que nous le fassions maintenant. Mais à mon avis, on aurait déjà dû le faire un peu plus tôt parce qu'effectivement, nous avons perdu un peu de temps là-dessus. Mais c'est vrai que il faut parvenir à trouver une solution sur cela et sur le visa, parce que réellement, lorsque nous avons envie de venir ici, qu'on le veuille ou non, certains d'entre nous, par exemple, nous prenons, certains en tout cas, en charge leur propre famille qui est restée ici. Mais cela est tout à fait étonnant pour nous quand nous nous présentons à l'ambassade et qu'on nous demande de redemander à notre mère à qui nous envoyons le chèque de nous refaire une prise en charge et qu'elle sera capable de nous prendre en charge quand nous arrivons. Il y a un certain nombre de choses de ce style-là qui sont tout à fait aberrantes, mais qui sont légales. Et donc nous n'avons pas envie d'être hors la loi. Les lois de la République doivent absolument, absolument être respectées. Mais nous pensons effectivement qu'il faut composer ces lois d'une manière, j'allais dire, responsable dans le sens de ce qu'on a envie de faire. Donc là-dessus, les contacts qui ont été pris avec les responsables de ce domaine, dont la DGM, dont le ministère des Affaires étrangères, naturellement, nous confortent effectivement dans le fait que très rapidement des solutions vont être trouvées pour ces questions de visa. Mais ça n'empêche pas que la République doit toujours savoir qui entre dans ce pays et qui n'entre pas, et ça c'est dans sa fonction aussi. Et ces choses doivent absolument, absolument être respectées en même temps.
À l'issue de ce forum, il a été mis sur pied la coordination générale des Congolais de l'étranger, dont vous avez été élu le secrétaire général. Il y a certaines personnes qui craignent, Pierre Damien Pambou, que toutes ces recommandations proposées en grande pompe au gouvernement ne puissent rester lettre morte. Hein. Quelle garantie vous donnez par rapport au suivi que vous devez faire?
Je crois que la garantie est double. Il faut déjà savoir que parmi ces recommandations, il y a des recommandations que nous avons faites à nous-mêmes. La première chose, quand on a envie de demander à la personne en face de faire son devoir, il faut aussi faire le sien. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, quand nous réalisons nos propres engagements, pour le réaliser, nous avons besoin aussi de réalisations faites par le partenaire. Ici, parlons en partenariat, même si en réalité nous parlons de notre pays. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense, moi, que si nous sommes, nous, capables de respecter ce que nous faisons, automatiquement, le partenaire sera presque obligé de faire aussi sa part. Mais nous savons que les choses ne se passent pas aussi simplement. Et là, c'est le gros travail que va devoir faire la coordination. Je pense d'ailleurs que pour les personnes qui se sont engagées dans cette coordination, j'espère que nous avons bien été conscients de la tâche qui nous attend, parce qu'il suffit de voir simplement la manière avec laquelle, entre nous, nous gérons le temps ici au Congo. Ça commence à être parfois de plus en plus difficile. En tout cas, pour nous qui avons passé un peu trop de temps là-bas, se dire qu'on a rendez-vous à 10h et se dire que peut-être que ça sera malgré tout à 10h30 et que cela n'est pas très grave, ça peut être réellement très grave. Donc, il y a un problème de mentalité. Nous allons devoir nous adapter, mais nous allons devoir aussi forcer la main des partenaires en face. La chance que la diaspora a, et je pense que là, c'est un privilège, et c'est pour ça que nous devons remercier la République, le Congo, pour cela, c'est que venant de la diaspora, que nous le voulions ou non, ceux qui sont au pouvoir, c'est nous, c'est-à-dire ce sont les nôtres, c'est la même génération, qu'elle soit restée au pays ou qu'elle ait été en diaspora, en immigration, ce sont les mêmes personnes. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, nous les connaissons. Et la plupart d'entre eux, nous les connaissons personnellement. Et je pense que c'est une faveur que nous avons et qui permet, en établissant déjà une relation directe avec les gestionnaires des institutions et du pays, ça aide certainement pour faciliter la réalisation du programme que nous nous sommes donné. Mais dans le cadre, évidemment, non pas de copinage ou de l'amitié personnalisée, mais en réalité, c'est une manière de fonctionner qui permet de faire fonctionner un système correctement aussi. Oh,
tomber l'hiver. Et nous on vous laissera toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers. À vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous, on vous a pas refusé nos visas. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous, on dit, on veut connaître la santé pitié. La chance de voir nos rêves de réalité. Encore un beau métier, pour pouvoir voyager. Connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette vie de bandits pour de bon. On veut pas se dire quand nous sommes en train de péter les flammes.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre corps. Ni même une goutte de pluie. En levant ta vie, tu le chemin de l'épargne. Un beau jour, il décide des femmes sans avoir. Nanana.
Ouvrez le frontière, ouvrez le frontière.
Laissez-nous passer.
Ouvrez le frontière, ouvrez le frontière.
Quelques minutes, Pierre-Damien Tambou, l'émission va toucher à sa fin. Le problème de l'immigration est très sérieux aujourd'hui. Quel message pouvez-vous adresser aux jeunes Congolais qui vous suivent en ce moment en guise de conclusion?
Pour nos jeunes Congolais, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on parvienne à leur montrer que, quel que soit ce qu'ils pensent, au pays, il existe des possibilités. Et je ne suis pas en train de les empêcher de venir en immigration. Je suis simplement en train de leur dire que l'immigration... La chance que l'on a, c'est quand on peut prendre l'immigration en termes de projet, et que c'est cela qui rentre dans la réalisation de son propre projet, alors il faudra le faire. Mais quand c'est simplement l'immigration est un choix parmi d'autres, il faut peut-être regarder les autres possibilités de choix. Mais ça demande aux institutions de se mettre face à leurs devoirs. Je pense effectivement que si le système d'enseignement se renforce de plus en plus, et nous pensons que quand on voit comment cela commence à se faire dans ce pays, dans un an ou dans deux ans, nous serons capables de juger, de nous dire « oui, nous sommes dans la bonne voie ». Et je crois que petit à petit, l'Europe deviendra de moins en moins attrayant qu'aujourd'hui, et ça ne sera attrayant que parce que c'est un élément qui réalise un projet personnel. Et ça, pour un projet personnel, quand il faut aller en Europe, il faut y aller, mais pas uniquement simplement pour y aller, évidemment.
Pierre-Damien Pambou, merci d'être passé à Grand Témoin.
Je vous remercie.
Thank you.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Pierre Damien Pambou, Tita Pambou, responsable des statistiques administratives au sein du bureau d'études de l'Université libre de Belgique, membre fondateur et commissaire fédéral de la Fédération des Congolais de l'étranger. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la réalisation et à la technique, à la présentation Alain Irung. Retrouvez cette émission sur le site radiocapi.net où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kanintchen dans la province du Kasaï-Oriental et partout dans le monde.